Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouidraoui, effectivement avec vous. Ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Et comme chaque semaine, nous revenons sur les résultats et les faits sportifs marquants. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Élisée Mpatine depuis Boyukon au Bénin. Élisée, bonsoir.
Oui, bonsoir Yacouba et bienvenue au Bénin.
Merci Élisée. Avec nous également le doyen Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Et nous retrouvons Amdine Sy à Columbus dans l'Ohio, ici aux États-Unis. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Jean-Modeste Ouédraogo, journaliste à la télévision du Burkina, est en direct de Tenkodogo depuis le centre-est du Burkina Faso, où a lieu le Tour cycliste international du Faso. Modeste, bonsoir. Dans Sporama, ce lundi 30 octobre 2023, les demi-finales aller de l'African Football League. L'Afrique du Sud, qui conserve son titre de championne du monde en titre de rugby. Comment les Sud-Africains dominent la balle ovale et le reste du continent est à la traîne. Et puis, retour sur le combat de boxe entre Tyson Fury et Francis Ngannou. Nous parlerons également de l'attribution du Ballon d'Or France Football 2023, présentement en cours. En tout cas, merci à tous de votre présence et à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute. Eh bien, lancé vendredi dernier, le Tour cycliste international du Burkina Faso est à sa quatrième étape ce lundi. Le cycliste marocain Achraf Ed Dogmi a enlevé cet acte 4 en devançant le Burkinabé Paul Dumont et le Belge Wouter Roger. Achraf Ed Dogmi a avalé les 136 km 800 courus entre Ouagadougou et Koupéla en 3h15 minutes 6 secondes, vitesse moyenne 42,070 km/h. Alors, Jules Valentin Ngoué, c'est un tour cycliste international du Burkina Faso qui se déroule dans des conditions sécuritaires assez difficiles. Déjà, que pensez-vous de la tenue de cette 34e édition?
Mais il faut dire d'abord que c'est une classique africaine. Il est difficile de parler de cyclisme en Afrique, surtout au sud du Sahara, sans parler du tour du Burkina Faso. Et quand on sait aussi et dans la culture burkinabé, le rôle que jouent les deux roues. Et donc, c'est un peu comme le FESPACO, c'est une tradition qu'on s'efforce toujours de respecter pour rester dans les normes. Je crois que les organisateurs ont eu raison d'insister, même s'il faut dire que la sécurité de tout le monde passe avant tout.
La sécurité de tout le monde passe avant tout, celle de Jean-Modeste Ouédraogo sur le tour du Faso passe également avant tout. Et bien, écoutez, Georges Léonard Sagno, notre réalisateur de ce soir, essaie donc de rappeler Jean-Modeste Ouédraogo. En attendant, Élisée, vous l'avez suivi, la quatrième étape a été courue aujourd'hui, enlevée par Achraf Ed Dogmi, le Marocain. Les Marocains autour cyclistes du Burkina Faso, c'est connu, hein?
Et bien évidemment, c'est connu. Achraf Ed Dogmi, qui était déjà sur le tour international du Bénin, il a fait forte sensation. C'est un coureur qui, depuis un certain moment, commence par maîtriser les tours un peu, en tout cas les tours internationaux un peu partout sur le continent. Les Marocains qui se révèlent depuis près de 4 ans déjà sur ces différents tours. Aujourd'hui, Ed Dogmi est un coureur très reconnu, surtout dans la partie ouest de l'Afrique. Aujourd'hui, le tour du Burkina est de retour et tout le monde est bien ravi, puisque c'est un tour qui, quand même, quand on prend les tours du côté de l'Afrique de l'Ouest, c'est le meilleur tour. Quand on parle du tour du Burkina Faso, il faut être véritablement très en jambes avant d'y participer. Aujourd'hui, ce tour est de retour avec le plus grand bonheur de cette cycliste. Les Béninois, ils sont aussi, ils vont essayer de faire quelque chose, puisque devant les Burkinabés, c'est pas évident, surtout le plus grand coureur burkinabé qu'on connaît tous actuellement et qui court derrière le maillot jaune. On verra d'ici à la fin de la dernière journée qui portera ce maillot jaune, mais quelque chose me dit que ce sera entre les Marocains et les Burkinabés.
En tout cas, Jean-Modeste Ouédraogo, je rappelle, un journaliste à la télévision nationale du Burkina Faso, est là avec nous. D'accord. Il est sur le tout et nous dira ce qui s'est passé aujourd'hui lors de cette quatrième étape. Jean-Modeste Ouédraogo, est-ce que vous m'entendez?
D'accord.
Allô, Modeste? Non, je pense que la ligne est toujours compliquée avec Jean-Modeste Ouédraogo. On va revenir sur ce tour cycliste international du Faso. Entre-temps, si la ligne, bien sûr, en direct de Tenkodogo dans le centre-est se rétablit. En attendant, parlons de football avec les demi-finales allées de l'African Football League, la Ligue africaine de football, disputée hier. Mamelodi Sundowns et le Wydad de Casablanca prennent le devant. Les Marocains se sont imposés 1-0 devant l'Espérance de Tunis. On écoute tout de suite Amine Birouk.
Cette première partie de cette double confrontation entre le Wydad et l'Espérance a tourné en faveur du club casablancais. Un score étriqué, 1-0, qui ne reflète nullement la domination du Wydad qui a largement mené les débats tout au long de la partie. En tout cas, pendant les 70 premières minutes, on a vu que les vice-champions du Maroc et vice-champions d'Afrique, domination territoriale stérile, en dépit d'une occasion de la MLO, d'une tête à bout portant mal cadrée en première mi-temps, et surtout plus fructueuse, plus efficace en deuxième partie de match, avec notamment le but du très remuant ailier Hichem Boussefiane, un centre fuyant qui a trompé la vigilance du gardien tunisien Moïse Ben Chérifia. Il y a eu ensuite la possibilité, après ce but inscrit à la 59e minute, de doubler la mise par l'avançante Cherki El Bahri, une tête sur la barre transversale, avant le sursaut de l'équipe tunisienne qui a cherché à se faire de plus en plus menaçante, si ce n'avait été quelques interventions du gardien Achraf Al-Moteh. On peut dire d'ores et déjà que le Wydad a accompli la première partie de son contrat. Il va falloir maintenant une équipe plutôt combative, mieux organisée sur le plan défensif pour supporter le choc mercredi prochain à partir de 15h GMT face aux assauts des sang et or. Une équipe de l'Espérance de Tunis rajeunie avec une certaine instabilité technique puisque c'est le directeur sportif Tarek Tebet qui officie sur le banc de touche mais qui a montré de bien belles qualités, beaucoup de discipline tactique, une bonne organisation de base. Et si le Wydad part favori, si le Wydad part avec la faveur des pronostics, personne ne peut écarter une éventuelle remontada d'une équipe tunisienne très séduisante et qui est capable, sur quelques coups de folie, avec le soutien de son public, de rattraper son handicap et de se qualifier pour la grande finale.
Même score d'un but à zéro pour les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns face à Al Ahly du Caire. Alors, Amdine Sy, les champions en titre en Ligue des champions restent en vie tout de même.
Ah oui, les Égyptiens de Al Ahly restent en vie parce qu'ils n'ont perdu que par un but à zéro puisque les Sud-Africains se sont imposés par un but à zéro. Une coupe avançant que les Sud-Africains tenteront de gérer lors de la match le tour. Ce ne sera pas évident comme Amine vient de le dire. Il peut y avoir une remontada, surtout si on sait que à Al Ahly, les Égyptiens sont des joueurs très expérimentés, rompus à la tâche. Donc, ils feront tout pour essayer quand même de renverser cette tendance. Mais ce sera extrêmement difficile puisque les Sud-Africains aussi sont des durs à cuire. Donc, pour les demi-finales retour, on aura droit à des matchs très épiques, que ce soit WAC contre Expérience et que ce soit Mamelodi Sundowns contre Al Ahly. En tout cas, les amateurs du football seront gâtés avec ces deux finales de la Super League africaine. Yacouba.
Je rappelle bien sûr que ces demi-finales retour de la Super League africaine se disputent ce mercredi. Alors, Jean-Modeste Ouédraogo nous a rejoint en cours d'émission. Jean-Modeste, bonsoir, est-ce que vous m'entendez?
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous les auditeurs de la Voix de l'Amérique.
Jean-Modeste Ouédraogo, merci de nous rejoindre. On avait quelques soucis avec la ligne téléphonique. Vous êtes sur le Tour du Faso 34e édition, cette édition 2023. On le disait également, arrivé en tête aujourd'hui de Achraf Aïd Dogmi du Maroc devant le Burkinabé Paul Doumont, entre autres. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé à cette étape 4 du Tour du Faso?
Yacouba, il faut dire que à cette étape 4, il y a eu beaucoup de suspense déjà, parce que 66 coureurs ont quitté Ouagadougou pour allier la ville de Koupéla. Et puis, sur la route, il y a eu pas mal de choses, notamment Paul Dumont qui a décidé d'aller à la reconquête du maillot jaune. Et c'est ce qu'il a fait en prenant déjà le premier point chaud. Et puis après, il est venu deuxième au deuxième point chaud pour déjà prendre des bonifications afin de refaire son retard par rapport au maillot jaune. Le maillot jaune, lui, a eu pas mal de déboires parce que sur la route, Yacouba, il faut le dire, il a eu des problèmes parce qu'il a eu à deux reprises des crevaisons. Et donc, ce qui a handicapé un peu le maillot jaune belge, Wouter Rüdger. Mais finalement, il a réussi à revenir dans le peloton. Et puis, à l'emballage final, il est arrivé troisième. Et donc, Paul Dumont est arrivé deuxième. Et le vainqueur de cette quatrième étape n'est autre que donc le Marocain, Ed Dogmi Ashraf. Et finalement, le Belge qui perd donc le maillot jaune au profit de Paul Dumont pour juste 3 secondes.
Alors, Modeste, la cinquième étape amènera le peloton demain mardi de Tinkoudougou à Zorgo sur une distance de 78 km. C'est la plus courte. Quels sont les enjeux?
Ah ben c'est la plus courte, et donc les enjeux c'est toujours pour le Burkina, hein, c'est toujours de travailler à conserver donc le maillot jaune avec 3 secondes d'avance seulement sur le poursuivant direct qui n'est autre que le Belge Wouter Rüdger. Maintenant pour le Maroc qui est tapis dans l'ombre, c'est vrai le Maroc n'a pas encore porté le maillot jaune, mais le Maroc est bien classé puisque le Maroc détient le maillot vert du classement général au point, et puis pas le maillot vert, le maillot rose, pardon. D'esprit intermédiaire. Et donc, c'est dit que le Maroc est une équipe qui va chercher en tout cas à placer encore des garçons dans le top 10 du classement général. Et aussi la Belgique qui n'entend pas de cette oreille-là, parce que la Belgique cherche aussi à reprendre le maillot et le Burkina qui cherche à conserver. Donc les enjeux, c'est de tout faire pour que la tunique jaune puisse rester au Burkina. Et je crois que comme l'étape n'est pas très longue, il n'y aura pas vraiment de surprise. Hein. Il n'y aura pas de surprise. On attend à cette arrivée-là un sprint massif.
Alors, ce tour cycliste hein, du Faso se dispute quand même dans un contexte sécuritaire assez difficile pour le Burkina. Dites-nous, vous sentez-vous en sécurité sur les routes du Burkina?
Ah ben déjà, oui, c'est vrai que actuellement la situation n'est pas très facile au Burkina. Mais pour ce qui concerne le tour du Faso, la sécurité en tout cas est là. Et vous savez que il n'y a jamais eu de tour du Faso sans sécurisation, même quand la situation n'était pas était meilleure que celle qu'on vit aujourd'hui. Donc c'est dit que oui, les autorités ont mis les moyens pour que les coureurs puissent être en sécurité, pour que la caravane puisse en tout cas traverser toutes les villes et arriver donc dans les villes d'étape et passer la nuit tranquillement, et aussi les nuits chaudes hein, qui continuent donc de se dérouler, c'est-à-dire à chaque arrivée dans la soirée, il y a vraiment cette nuit chaude là pour permettre à la population de communier un tant soit peu avec les cyclistes et puis avec la caravane. Donc, ça vous dit qu'il n'y a vraiment pas de problème. Tout se passe très bien. Et à Koupéla, le Premier ministre de Burkina était présent. Il a lancé un message à l'ensemble des Burkinabés et aussi au reste du monde que le Burkina Faso est un pays qui reste fréquentable. Le Burkina Faso est un pays qui reste vivable. Et que, bon, voilà, c'est vrai que la situation est difficile, mais le Burkina travaille à juguler la situation. Et actuellement, en tout cas, l'opération de conquête, se poursuit au niveau donc du Burkina.
Merci beaucoup Jean-Modeste Ouédraogo. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif à la télévision nationale du Burkina et vous étiez en direct de Tinkoudougo depuis le centre-est du Burkina Faso où a lieu le Tour cycliste international du Faso. Je rappelle aussi que l'arrivée finale de cette 34e édition du Tour cycliste international du Faso est prévue pour ce dimanche 5 novembre à Ouagadougou. En attendant Modeste, on vous laisse profiter des nuits chaudes, hein, comme vous le dites.
Tout à fait.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup Yacouba. Merci à tous. Merci bien.
Ballon rond, toujours avec les. On retourne, disons, au ballon rond avec les éliminatoires hein, des Jeux Olympiques de Paris. Côté football féminin, le Maroc est sur la voie grâce à sa victoire 2-0 sur la Namibie.
L'équipe du Maroc féminine qui a commencé l'ère Jorge Vilda, entraîneur de l'équipe d'Espagne champion du monde lors de l'édition qui s'est disputée en Australie, sur un succès lors des qualifs des JO face à la Namibie, 2-0. Une double confrontation qui se déroule en terre marocaine, puisque les stades de ce pays du sud-ouest africain ne sont pas homologués. Du coup, la CAF a décidé de programmer la manche aller où, initialement, ou théoriquement, la Namibie devait recevoir à Marrakech. Une rencontre qui s'est soldée par une victoire des Marocaines sur le score de 2-0, même si elles ont été gênées par les gabarits des Namibiennes et par un engagement physique un peu trop excessif. Mais il y a eu tout de même le métier des Marocaines qui ont su faire la différence par Nisrine Chet de la 20e minute et surtout sur un superbe retourné d'Anissa Al-Hamari à un quart d'heure de la fin. Les Marocaines vont devoir confirmer ces bonnes prédispositions, transformer cet essai à travers le match retour prévu demain à Rabat. Une victoire ou même un match nul serait suffisant pour leur permettre de retrouver la Tunisie qui a éliminé la Côte d'Ivoire. On rappelle que la Côte d'Ivoire a préféré déclarer forfait. Ce serait donc logiquement une confrontation lors de l'avant-dernier tour préliminaire contre les Tunisiennes avant éventuellement de retrouver une équipe de Zambie également mondialiste et qui est capable aujourd'hui de bien représenter l'Afrique comme elle l'avait fait lors de la dernière édition des JO. Je rappelle que contrairement à l'édition de Tokyo où il n'y avait qu'une seule sélection africaine qui avait disposé du sésame olympique, cette fois-ci l'Afrique aura deux billets qualificatifs en raison de l'élargissement du nombre de sélections qualifiées aux JO à 12, un chiffre assez intéressant qui permettra à l'Afrique d'avoir deux bonnes représentantes à Paris en 2024.
Nous parlons à présent de rugby. L'Afrique du Sud conserve son titre de championne du monde suite à sa victoire en finale au Stade de France face à la Nouvelle-Zélande. 12-11, Élysée, les Springboks ont remis ça.
Ils ont remis, ils ont souffert dans cette compétition, il faut le dire, puisque déjà à partir des quarts de finale, c'était face à un grand favori, la France qui est restée jusque-là intraitable à domicile. Après avoir battu la Nouvelle-Zélande, donc vous imaginez, l'Afrique du Sud ne partait pas déjà favorite dans cette rencontre. Eh bien, ces aspects sud-africains ont souffert, comme je l'ai dit, ils ont passé l'étape française, puis l'étape anglaise. Les Anglais qui quand même ont montré de très bonnes choses, qui étaient très physiques, et ils ont donné beaucoup de travail aux Sud-Africains qui, une fois encore, ont eu le moral très haut pour passer cette étape en finale. C'était sans compter sur la détermination de leurs meilleurs joueurs qui les a portés très haut. C'est vrai que les Néo-Zélandais sont revenus un peu dans la rencontre et en défense, les Sud-Africains se sont bien montrés, se sont bien comportés pour finalement remporter ce trophée. Comme en 1995, eh bien, l'Afrique du Sud a eu raison une fois encore de la Nouvelle-Zélande pour se lever sa 4e Coupe du Monde. C'est tout simplement un record, Yacouba, il faut le dire, puisque l'Afrique du Sud est devant le nombre de Coupes du Monde remportées.
4 Coupes du Monde pour l'Afrique du Sud, donc après 1995, 2007, 2019 et maintenant 2023. Amdine, l'Afrique du Sud n'a jamais perdu en finale de la Coupe du Monde de rugby. Ce que font les Sud-Africains dans cette discipline est impressionnant, même si curieusement, ils sont pratiquement les seuls à s'en sortir sur le continent africain dans cette balle ovale.
Oui, c'est un paradoxe. L'Afrique du Sud qui gagne la Coupe du Monde pour la 4e fois de l'histoire, alors qu'en Afrique, le rugby ne se porte pas bien, il faut le dire, il faut le reconnaître. Mais il faut dire que la suprématie des Sud-Africains aussi est en train de diminuer, puisque les Sud-Africains ont souffert durant cette Coupe du Monde. Je dirais que même que c'est une victoire dans la douleur, un sacre dans la douleur, puisque les Sud-Africains ont été battus en match de poule je pense que ce sont les Anglais qui les ont battus en match de poule 13-8. Et ensuite, ils ont souffert en quart, en demi et en finale, en quart face à la France, Yacouba l'a dit, 29-28, un but d'écart. En demi-finale face aux Anglais, 16-15, un but d'écart. Et ensuite, en finale face à la Nouvelle-Zélande, un but d'écart encore une fois. Mais l'essentiel est fait, puisqu'il fallait gagner, ils ont gagné. Mais le paradoxe est encore là. L'Afrique du Sud qui domine le rugby mondial. Et en Afrique, le rugby mondial, il faut le dire, c'est 0-0-0. Je pense qu'on doit travailler pour un peu équilibrer cela, puisque voir un pays africain dominer le rythme mondial et les autres qui ne parviennent même pas à suivre, c'est un problème. Il faut essayer de corriger Yacouba.
Message bien entendu, Sandoux. Boxe à présent, c'est l'événement qui fait toujours parler, bousculé mais comme jamais. Le Britannique Tyson Fury a remporté de justesse donc son combat de boxe tant attendu, contre la star du MMA Francis Ngannou samedi à Riyad, grand favori en sa qualité de champion WBC des poids lourds. Et bien Fury a été déclaré vainqueur par décision partagée face à Ngannou qui disputait à 37 ans son premier combat de boxe. Jules Valentin Goué, le Camerounais qui a envoyé le Britannique au tapis au troisième round, a failli signer l'un des grands exploits de l'histoire de cette discipline, qu'est la boxe.
Oui, mais il faut dire que le déroulé du combat n'a pas été sans surprise. La première a été de voir le Camerounais bien préparé par le vrai Tyson, Mike, s'adapter aussi aisément à ce changement de discipline. La deuxième a été que ce soit lui qui prenne les initiatives à partir d'une garde haute, bien respectée et se montre le plus offensif, tout au long du combat, malgré le net déficit de taille et de rallonge face au géant britannique, qu'il va d'ailleurs envoyer au tapis à la surprise générale, sans tomber dans le piège habituel des facéties destinées à déconcentrer l'adversaire qui utilise souvent Fury. Et résultat, on a eu un combat où Tyson Fury a été très prudent, ce qui est un signe de respect vis-à-vis de son adversaire Ngannou. Ce qui reste à voir, c'est que Fury vienne aussi se battre sur le terrain de Ngannou, où le Camerounais aura la possibilité de présenter les spécificités de son sport où tous les coups sont permis. Alors, comme disent nos parents ivoiriens, il nous dira si les garçons.
Bien évidemment, il nous a déjà dit qu'il est garçon, Jules Valentin Goué. On va retourner au football cette fois-ci pour parler de cette candidature commune presque validée. Maroc, Portugal, Espagne pour le Mondial 2030, le centenaire, les présidents des fédérations des trois pays se sont rencontrés à Rabat au Maroc pour finaliser leur candidature. Le point avec Amine Bilou.
C'est le début d'un long process après la décision de la FIFA, où l'annonce par la FIFA qu'il n'y aurait qu'une seule candidature en lice pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030, après le compromis trouvé par la FIFA à travers l'octroi de 101 matchs au ticket Espagne-Portugal-Maroc et de 3 rencontres pour des pays d'Amérique latine en 2030, il y a un processus formel qui devait être poursuivi. Tout commence par une lettre d'intention, elle a été signée ce samedi à Rabat en grande pompe par les trois présidents de fédération, Fouzil Khejaa, représentant la partie marocaine, Fernando Rocha, président intérimaire de la Fédération Relais Espagnole de Football, et Fernando Gomes, président de la Fédération Portugaise de Football. Tous trois ont incité sur la valeur symbolique de cette candidature commune. On parle aujourd'hui de trois pays, de deux continents, de deux civilisations différentes, et puis d'une seule et même candidature, une seule et même voix. En ces périodes de troubles où il y a des guerres un peu partout dans le monde, ce message diffusé a une valeur symbolique qui sera concrétisée en 2030 à travers ce dossier commun. Il y aura une deuxième étape. C'est le travail qui est fait actuellement par une commission technique pour délimiter le nombre de terrains qui seront accordés. Le Portugal a déjà annoncé la couleur avec 3 terrains seulement. Le Maroc souhaiterait avoir plus de 5 stades et l'Espagne voudrait avoir la part du Lyon. On part d'un minimum de 14 à 18 stades. C'est ce qui est annoncé ou prévu par le cahier de charge que la FIFA a déposé. Il y aura donc une deuxième étape, comme je l'avais annoncé. Il s'agira de la présentation officielle de la candidature. Elle devrait avoir lieu fin juin 2024, selon les textes établis par la Fédération internationale de football, avant de passer au troisième step, à savoir la présence lors du congrès qui aura lieu lors du dernier trimestre de l'année 2024 en Thaïlande. C'est là où sera formellement voter et reconnu cette candidature qui a une valeur symbolique et qui va devoir passer aux choses pratiques avec de multiples discussions sur les terrains et surtout le sujet qui intéresse tout le monde, aura lieu le match d'ouverture, où se déroulera la finale. Aujourd'hui, l'Espagne se pose en candidate forte avec deux terrains de 80 000 places, le nouveau Nou Camp et le nouveau Bernabeu. Mais le Maroc et l'Afrique n'ont pas dit leur dernier mot avec un joker qui pourrait être abattu, à savoir le grand stade de Casablanca dont les travaux devraient commencer à la fin de l'année et qui devrait disposer d'une cité sportive et surtout d'une capacité à accueillir plus de 113 000 spectateurs.
L'élargissement du Ballon d'Or 2023 qui est en cours d'attribution ce soir, eh bien, on connaîtra entre Lionel Messi, champion du monde avec l'Argentine, il part donc favori pour remporter son 8e Ballon d'Or devant le Français, du PSG, Kylian Mbappé et le Norvégien de Manchester City, Erling Haaland. Ça va très vite, c'est ici que nous refermons ce numéro de Sporama. Merci à nos consultants Élisée Mpatine, Amine Birouk et Amdine Nassi. Merci à Jean-Modeste Ouédraogo depuis l'Est du Burkina, à Tinkodogo. Merci à vous, chers auditeurs, d'être restés à l'écoute de cette émission réalisée par Georges Léonard Sagnot. Je suis Yacouba Ouédraogo dans quelques secondes, une nouvelle édition du journal avec Jean-Roger Billon. Au revoir.